Voilà, alors bonjour, c'est notre avant-dernière séance. On va faire un psaume qui n'est pas très drôle, qui n'est pas forcément difficile, même s'il est bourré de difficultés au point de vue du texte. Et ce qui fait sa difficulté, au fond, pour vous, c'est plutôt sa longueur. C'est-à-dire, sur un psaume long, c'est beaucoup plus difficile de repérer des structures, et je ne suis pas sûr que les structures marchent sur les psaumes longs. Sur les psaumes courts, on voit très bien, c'est comme un sonnet, les règles sont très précises, bon, on peut les découvrir facilement. C'est pour ça que je prends plutôt des psaumes plutôt courts. Non pas parce qu'ils sont plus faciles, vous avez vu qu'ils étaient quand même quelquefois très difficiles, même très courts. La dernière fois, la prochaine fois, on terminera avec les deux psaumes les plus courts du psautier, et vous verrez que c'est bourré de difficultés, mais seulement ça tient en quelques versets. Donc c'est plus facile à maîtriser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a fait choisir le psaume 22? Un peu comme le psaume 19, il pose des problèmes théologiques énormes, et c'est un psaume qui est repris dans le Nouveau Testament, hein, à la croix. Donc ça va nous permettre de nous poser quelques questions sur son usage dans le Nouveau Testament, mais il faut d'abord voir un petit peu comment il a été interprété. À la différence de beaucoup d'autres psaumes du psautier, qui sont des psaumes orphelins, et hier on me demandait sur Internet de la documentation sur le psaume 38. On ne va pas l'étudier, hein, c'est « Dominé, Seigneur, dans ta fureur, ne me châtie pas », etc. Bon. Alors, je regarde 3 ou 4 commentaires en essayant de trouver une bibliographie. Je trouve 3 à 4 articles. Bon. Sur le psaume 22, c'est plutôt une 150aine d'articles qu'on a pu écrire, et même un livre dont je vais me servir un petit peu. Le livre n'est pas consacré au psaume 22, mais presque la moitié, et qui est une étude remarquable dont je vais m'inspirer pas mal. Donc David, Jésus, la reine de Saba, etc. Et le psaume 22. Alors on met 21 pour la... Donc je dirais que la fiche, je n'ai pas eu trop de mal à la faire, puisque tout le travail avait déjà été constitué par des collègues très compétents. C'est fait sous la direction de Gilles Lorival, qui est un grand spécialiste de la Septante. Vous entendez là, c'est bon? Je vais peut-être mettre mes... Comment? Le livre s'appelle « David, Jésus et la reine Esther, recherche sur le psaume 21, entre parenthèses 22, texte massorétique. » Et Gilles Lorival, mais je vous l'ai mis dans la... C'est un souhait que je forme, hein, c'est pas... Vous faites bien ce que vous voulez. Plutôt un libéral démocrate. Voilà. Alors, on va d'abord regarder le texte et les problèmes posés par le texte, qui sont importants. Sans rien vous cacher, j'ai fait mon mémoire de l'école biblique sur ce psaume-là. J'ai quelques petits... Mais, vous savez, il y a longtemps, et les souvenirs s'effacent. Enfin, j'ai quand même mis le doigt sur un certain nombre de difficultés. Alors, on va d'abord regarder la première partie, le texte et ses difficultés, et les rapports du texte aux versions. Sans trop nous y attarder, mais c'est important parce qu'il y a 2 ou 3 endroits où c'est stratégique pour le sens du psaume. Voilà. Alors, pour le début, il n'y a pas trop de difficultés. Le verset 1, vous voyez, je vous ai mis, à la différence des autres fois, là j'ai mis en juxtalinéaire toutes les versions en même temps. Hein. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Loin de ma délivrance, parole de mon cri. Bon, la Septante a un tout petit peu bricolé. Mon Dieu, Dieu, mon Dieu, prête-moi attention, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le chant, le sens n'est pas modifié outre mesure. Le Targum, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Loin de ma délivrance, parole de mon cri, je dirais que c'est très très proche. Et la Vulgate est très très proche de la Septante, Deus meus respice me, quare me de reliquisti. Bon, je l'ai mis en latin parce que c'est comme ça que c'est cité dans, dans le Nouveau Testament. Donc on a une sorte là de consensus sur la citation. À un problème près, c'est que dans le Nouveau Testament, ça n'est pas cité en hébreu, mais en araméen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. S'il avait dit en hébreu, il aurait dit ce qui est écrit, hein, c'est-à-dire. Etc. Eli, Eli, lama azeftani. Rachot Mishuati Divrei Shaugati. Il aurait dit ça. Mais il n'a pas dit ça, justement. Il a dit Sabachthani, qui est de l'araméen. Et qui ne correspond pas tout à fait au Targum. Alors, mon Dieu, j'appelle, verset 3. Mon Dieu, j'appelle le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai pas de silence. La Septante a quelques petites variantes. Hein. Mon Dieu, je crierai le jour vers toi. Et tu n'écouteras pas. Vous savez qu'il est coincé, le grec, par rapport à l'hébreu. C'est que l'hébreu, le verbe peut être au passé, au présent et au futur. On ne peut pas le savoir. Donc, vous avez un présent en français. On aurait très bien pu mettre un passé ou un futur. Bon. Et mon Dieu, j'appellerai ou j'ai appelé et tu n'as pas répondu. On pourrait très bien avoir cette séquence en français. Alors là, la Septante a choisi le futur. Hein, ça, faut que vous reteniez ça pour quand vous entendez un psaume, vous dites, mais alors attends, il chante ça au futur, mais j'ai ouvert ma Bible, c'est au présent ou c'est au passé. Ben oui, puisque le verbe hébreu ne marque pas la temporalité. Il marque beaucoup de choses, mais il ne marque pas ça. Donc, faut pas vous inquiéter. Et là, c'est un très bon exemple de la Septante qui prend le parti que ce soit un futur. Alors, et de nuit, ce n'est pas folie pour moi. Bon, et la nuit, pas de silence. Alors, l'odoumia li, douma, doum, c'est la racine silence, pas de silence pour moi. Vous avez un texte qui dit ça admirablement hein, dans Élie qui va sur la montagne, c'est un texte que vous connaissez par cœur, et il est allé au Sinaï parce qu'il en a marre, et il attend une révélation de Dieu, et Dieu commence par lui apparaître, ne pas lui apparaître, dans l'orage. Il y eut un grand vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y eut ensuite un grand tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et il y eut ensuite, etc., une éruption volcanique, et Dieu n'était pas dans l'éruption volcanique. Puis il se fit un calme, et généralement, on traduit en français, on entendit le bruit d'une brise légère. Et Dieu était dans la brise légère. En hébreu, c'est beaucoup plus fort, c'est la racine qui est là, Dieu était dans le silence. Dieu était dans le silence. Ben oui, ça me paraît bon, ça, comme traduction. Je ne sais pas pourquoi ils sont obligés de prendre la brise légère. C'est la Septante ou la Vulgate hein, qui leur a inspiré ça. Mais enfin, comme on traduit l'hébreu, mais on a peur, justement, du silence. Et on a peur que Dieu soit dans le silence. Ben non, il est dans le silence. Hein. On entendait... Alors, en hébreu, il y a une phrase tordue, puisque on entendait le bruit du silence... Entendez le bruit du silence. Voilà, c'est là qu'il y a une petite difficulté quand même. Alors, verset 4. Tu es saint, assis sur les prières d'Israël. Bon, asseoir ou trôner, c'est la même chose. La Septante a mis, mais toi parmi les saints, tu résides, toi la louange d'Israël. C'est-à-dire, c'est un petit peu différent. Hein. L'hébreu dit, toi tu es assis sur les prières ou sur les louanges d'Israël. Et la Septante, mais toi tu es parmi les saints, la louange d'Israël. Je pense qu'il a plutôt raison que le texte hébreu. Verset 5. Alors c'est intéressant, Targoum, là au verset 4. Toi tu es saint, assis pour l'éternité sur les prières d'Israël. Bon, exactement ce qu'il y a dans l'hébreu. Verset 5. En toi ont espéré nos pères, ils ont espéré et tu les as sauvés. Et là je dirais, il n'y a strictement aucune variante de la Septante au Targoum ou à la Vulgate. En toi, nos pères ont espéré. Ils ont espéré, tu les as sauvés. C'est tout à fait la même chose. Petit problème en hébreu, le verbe espérer, il y en a plusieurs, mais il y a kav surtout, la racine kav, qui signifie la corde tendue. C'est ça, l'espérance, c'est tendue, en tension vers rien. Par une corde qui vous tire vers l'avant. L'espérance, en français, nous avons deux mots. Nous avons espoir et espérance. Alors, quand ça nous arrange, on traduit par espérance. Et quand ça ne nous arrange pas, on traduit par espoir. En fait, c'est la même chose. La plupart des langues n'ont pas espoir et espérance. Ils n'ont qu'un mot. L'allemand n'a qu'un mot. Hoffnung, c'est aussi bien l'espérance mathématique, l'espérance chrétienne. Bon, en français, on a deux mots, et ici, c'est pas mal qu'il est traduit par espoir ou espérer, plutôt que par espérance, qui connote un peu trop de choses. Dans verset 6, « Vers toi, ils ont crié, tu les as sauvés ou délivrés. En toi, ils ont espéré, et tu n'as pas et n'ont pas eu de honte ou n'ont pas eu honte. Bon, crier, sauver, espérer, ne pas être confondu. Avoir honte être dans la honte, c'est être confondu de honte. Verset 6. Devant toi, ils ont prié et ils ont été sauvés. En toi, ils ont eu confiance et n'ont pas été confondus, enfin n'ont pas eu honte. Ici, c'est un autre mot. Bon, je crois que le latin, à chaque fois, il a... Non, In te speraverunt patres nostris, speraverunt et liberasi, libéré, ratzil en hébreu. Au verset 6, envers toi ils ont crié et ont été sauvés. Et là, le texte latin a et salvi factisum, c'est exactement ça, c'est très bien traduit, hein. Intesperamont et non confusi, c'est-à-dire n'ont pas été confondus. Donc, référence ici au Père. Alors, entre prier et crier. Alors, oui, il y a une différence. En hébreu, ce n'est pas le même mot. Hein. La prière peut être un cri, on va y revenir. Mais ici, c'est vraiment crier, hein, Zahak, c'est-à-dire c'est le cri qu'on porte vers Dieu. Donc, crier peut être une métaphore pour dire prier, hein, pour envoyer à prier, mais il y a un mot pour prier qui est tefillah, la tefillah, palal, qui signifie prier. Oui? Non, c'est-à-dire que espérer, c'est l'idée de la corde tendue, et au contraire, ils se sont confiés en toi, c'est le mot batar en hébreu. Et pour vous donner un hébreu moderne de cette racine bâtard, bitachon, c'est les services de sécurité. Chimbet, c'est bitachon, la sécurité. Donc, si vous voulez, se confier, qui est ici, donc, qui traduit bâtard, signifie vraiment ils ont été en sécurité avec toi. Les mots hébreux ont toujours une coloration plus imagée que les mots français. Donc, confier et espérer n'est pas la même chose. Hein. Se confier, c'est chercher sa sécurité en Yahvé. Espérer, c'est à la fois attendre quelque chose de lui, qu'il intervienne, etc. Mais ça n'est pas... c'est très proche hein, sémantiquement, puisque c'est dans la même chaîne sémantique, mais il y a des différences. Alors, on arrive au verset 7, là où il va parler de lui. « Et moi, je suis un faible ver. » Bon, c'est pas grand-chose, déjà, ver, c'est pas grand-chose, mais faible ver, c'est rien. « Et non un homme, la honte d'Adam, l'opprobre du peuple. » C'est-à-dire, je suis un untermensch, un sous-homme. La septante, « Mais moi qui suis un ver et pas un homme, » un opprobre pour l'homme et rien pour le peuple. C'est pas trop mal, ça. On voit qu'il a essayé de bricoler un petit peu. Et moi, je suis un faible ver, dit le Targoum, mais non un homme intelligent, la honte des hommes et l'opprobre des peuples. Voyons, chacun arrange à sa sauce. La même chose pour le latin. Verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvriront la lèvre, ils secoueront la tête. Alors, ouvrir la lèvre, en français, ça veut dire, ça, je vais le dire en argot, ça va être plus facile, se fendre la gueule. Quoi. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Hein. Ça veut dire ça, vous voyez. Bon, on ne peut pas mettre ça dans un psaume comme ça, hein, mais l'image y est. Alors, ils ouvriront la lèvre, ils secoueront la tête. Tout ça, on passe des paroles aux gestes. Se moquer n'est pas la moquerie orale, c'est la raillerie presque mise en scène. Quoi. Il y a une idée d'action. De même, ouvrir les lèvres, secouer la tête, tout ça, ce sont des gestes. Bon, la septante s'en est pas mal tirée. Tous ceux qui me regardaient m'ont ri au nez. On voit bien là, comment ils s'en sont tirés. Ils ont parlé avec leurs lèvres. Bon, ça, c'est une solution de misère. Parce que je ne vois pas avec quoi on peut parler d'autre. Hein. Et ils ont hoché la tête. Voilà. Alors qu'en hébreu, il y a une image, si vous voulez. Ils ont parlé avec leurs lèvres. C'est la septante s'en est mal tirée. Mais ce n'est pas une faute de traduction du traducteur. C'est... La septante est allée au minimum, si vous voulez, de la sémantique. Alors par contre, le Targoum va un petit peu plus fort, puisqu'ils m'attaquent avec leurs lèvres. On voit bien, ils sont là comme dévorants, si vous voulez. Alors, verset 9, « Confie-toi à Yahvé, il le délivrera, il l'a sauvé. » Confie à Yahvé, il le délivrera. Il l'a sauvé car il l'a voulu. Là, on est surpris parce que on aurait plutôt attendu. Confie à Yahvé, il te délivrera, il t'a sauvé, comme etc. Mais ici, on a il. Alors, la septante est un peu différente. Il a mis son espoir dans le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il veut. Il le veut, lui. Il a prié Dieu et Dieu l'a sauvé. Il l'a délivré car il le voulait ou il l'a voulu. Le latin s'en sort aussi bien. Alors, verset 10. Car tu es celui qui m'a tiré du ventre, qui m'a assuré sur les seins de ma mère. Bon. Il n'y a pas beaucoup de différence, sauf le que « assuré » ou « assurance » est devenu mon espoir depuis les mamelles de ma mère, depuis les seins de ma mère. Alors ici, tout à l'heure, il y avait une allusion au père, là il y a une allusion à la mère, c'est-à-dire depuis le ventre maternel, il est en quelque sorte confié à Dieu. Verset 11. Depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Vous voyez, on revient encore. Il marche un peu en crabe, le psaume 22. C'est-à-dire, il dit un truc, il avance, il revient, il avance, il revient. Et ça marche un peu comme ça. C'est une composition à laquelle qu'on pratique volontiers, hein, mais on n'en est pas conscient. Alors, depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu, ça veut dire, depuis ma conception, c'est toi, mon Dieu, vers toi j'ai été projeté hors de la matrice, dit la Septante, depuis les entrailles de ma mère, tu es mon Dieu, toi. Bon. Targum est un peu plus expressif. Avec ton aide, j'ai été expulsé de l'utérus depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Là, ici, on a, vous voyez un peu l'image, l'expulsion de la mère et la réception à l'arrivée par Dieu. Vous voyez un peu la vie. Il n'y a pas de plus là. Verset 12. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car il n'y a pas d'aide. Ne t'écarte pas de moi, l'oppression est proche, il n'y a personne qui me vienne au secours. C'est la même chose en paraphrasant. Alors ici, le mot aide, qu'on trouve par exemple dans Genèse, Adam n'avait pas trouvé d'aide qui lui corresponde. Hein, on a ça. Sens d'Ève d'une côte d'Adam. Bon. Eh bien, le mot aide est en général un terme que Dieu emploie, c'est lui qui aide, et c'est une racine que vous connaissez bien, Éléazar, mais le diminutif d'Éléazar, vous le connaissez tous, c'est Lazare. Lazare, on enlève le « et », mais en fait c'est Éléazar. Bon. Alors, « El », Dieu, « Azar », aider, mais aider au sens de sauver, c'est-à-dire que si Dieu n'intervient pas, l'homme ou la femme, pour lequel il n'y a pas d'intervention, est en état de danger de mort. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'Adam n'a pas trouvé d'aide qui lui corresponde, est en danger de mort, s'il ne trouve pas. Donc ce n'est pas l'aide, celle qui va faire le ménage, la cuisine, etc. C'est l'aide au sens de le secours qui arrive. C'est-à-dire qu'Adam tout seul est un homme mort et il a besoin. Comme le dit très bien le texte. Donc, il n'y a pas d'aide, ça veut dire que je suis en danger de mort. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche et il n'y a pas de sauveur. Alors ici, vous voyez, le Targum a carrément transformé l'aide en salut. Fait dans la même ligne, il explicite, vous voyez, le Targum explicite là. Verset 13. Ils m'ont encerclé les nombreux taureaux, les chevaliers du Bashan m'ont cerné. Bon. Le cercle autour de moi, des taurillons en nombre, des taureaux gras m'ont entouré. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis les chevaliers, là, honnêtement. Généralement, on parle des taureaux de Bazan. Alors, taureau de Bazan, ça peut vous paraître curieux, ou de Bashan, si vous voulez faire un peu sérieux. Là, vous avez quelque chose d'intéressant entre la Septante et le texte masorétique. Le texte masorétique, il parle de taureau de Bashan. Bon. Entre hébreux, on sait ce que ça veut dire, un taureau de Bashan. C'est-à-dire, c'est comme si je vous parle en français, je m'excuse pour les étrangers. Mais j'ai mangé de la viande de bœuf, c'était de la limousine ou du charolais, c'est-à-dire le top. Hein? Limousine ou charolais, surtout le charolais. Et une bonne côte de bœuf de charolais, là, arrosée avec du vin, c'est le paradis anticipé. Donc je vais vous dire, c'est ce que vous voyez d'ailleurs dans vos vitrines, puisqu'on parle de traçabilité maintenant, mais là il y a de la traçabilité, hein. On vous met la viande, la provenance, etc. Bon. se marquer communauté européenne, je suis un peu plus ennuyé, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, les taureaux de Bashan, pourquoi? Parce que c'est des plateaux qui sont relativement arrosés, pas très loin de l'Hermon et tout ça, et donc c'est vraiment des taureaux ou des bovins extrêmement de très très bonne qualité. Bashan est réputé, si vous voulez, pour sa production bovine, c'est clair. Alors, la Septante, elle, en milieu grec, si elle avait mis Bashan, alors, si j'avais traduit en français le texte, moi, pour la liturgie, je vous aurais mis ceci. Je suis encerclé, ou ils m'ont encerclé, les nombreux taureaux du Charolais. Alors, tout le monde aurait dit, mais alors, yo, bon, où on est? Ben oui, ça vous dit quelque chose. Enfin, les taureaux de corrida, les miuras, là, les gros taureaux qu'on a pour les corridas, tout le monde aurait compris que on prenait le top, quoi. Alors, la Septante, elle a fait quelque chose qu'on ne fait habituellement pas. Elle a transformé les taureaux de Bashan en taureaux gras. Voilà. C'est du bon de ça. Oui. Voilà. Un taureau gras. Elle a enlevé le nom propre qui n'aurait rien voulu dire pour les braves gens d'Alexandrie, hein, ou autour d'Alexandrie. Alors, le Targoum, lui, ils m'ont encerclé les adorateurs des étoiles. Je ne vois pas d'où ça vient. Hein, qui ressemblent à de nombreux taureaux, les princes de Matan m'ont cerné. Alors là, le Targoum, il est un grand berger. Hein. Les adorateurs des étoiles, en fait, c'est l'astrolatrie, on en a parlé la dernière fois, hein, à propos du psaume 19. Ça ne doit pas vous surprendre, mais qui ressemble à de nombreux taureaux, et lui aussi, il a sauté Bashan, hein, qui ne veut rien dire. Les gens qui sont, bon, les Araméens sont plutôt en Palestine, ou bien ailleurs, parce que l'araméen, ça se parle quand même en Mésopotamie, dans toutes les communautés juives, c'est ça qu'on parle, hein. Donc, Bashan ne voulait peut-être plus dire grand-chose. La Vulgate, pourtant Saint Jérôme, écrit en Palestine, mais là, même s'il connaît l'hébreu, il a mis Tori Pingues Obsederont. Mais, bon, Pingues, ça veut dire gras. Donc, il n'a pas pris de nom propre. Verset 14. Ils ont ouvert sur moi leur bouche, lions qui captive et qui déchire. Bon, la Septante, ils ont ouvert contre moi leur gueule comme le lion qui saisit et rugit. Quelle est la différence entre le texte massorétique et la Septante? Dans le texte massorétique, nous avons ce qu'on appelle une métaphore. Ils ont ouvert sur moi leur bouche, on pourrait dire ils ont ouvert sur moi leur gueule. Mais en hébreu, le mot « pi » signifie à la fois la bouche et la gueule. Alors, pour des humains, on parle plutôt de bouche, et pour des non-humains, on parlera plutôt de gueule. Bon, quand on emploie le mot « gueule » pour quelqu'un, en général, c'est plutôt désagréable. Hein, « ferme ta », etc. On ne dira pas « ferme ta bouche » parce que ce n'est pas efficace, mais on dira plutôt autre chose. Alors, ici, il aurait presque fallu traduire l'hébreu. Ils ont ouvert contre moi leur gueule, c'est ce que traduisent certaines Bibles. Lion qui capture et déchire. Là, le lion est une métaphore, c'est-à-dire ce sont des lions. Tandis que la Septante, elle a fait une comparaison qui est une métaphore atténuée. Hein, je vous ai expliqué ça dans une leçon. Le système des métaphores, c'est très commode, puisque une chose renvoie ou peut être décrite à partir d'une autre, et il y a une interaction entre la chose décrite, ou le référent, et la chose signifiante. Donc ici, le lion qui capture et qui déchire. Est-ce qu'il y avait beaucoup de lions en Israël à cette époque-là? C'est bien que Judas a pris comme emblème le lion, mais comme disait le père Deveau, probablement, il y a beaucoup de mots pour dire lion dans la Bible. Hein. Il y a 5-6 mots pour dire lion. Et le père Devaux disait, oh, la moitié, ça devait bien être des chats. Donc, peut-être pas tant de... Moi, je veux dire, faut de pour un lion, il faut de l'espace. Hein. Faut de l'espace et de l'eau, donc... Le lion est plutôt un peu plus haut, quoi, sur, dans les plateaux d'Iran, puis alors on va le retrouver en Afghanistan, en Chine et tout ça. Voilà, alors la Septante n'a pas osé dire que c'était des lions, mais comme le lion, vous voyez, un petit peu, une, il a fait une comparaison. De même, Jérôme, Sicut Leo Rapiens et Rugiens, bon, ça c'est du bon. De même, le Targoum, comme le lion, qui capture et déchire. Alors, comparaison donc avec... Ils ont ouvert leur gueule, ils sont comme des lions. Maintenant, moi, comme de l'eau. On va prendre une autre comparaison. On va les revoir tout à l'heure. Hein. Alors, verset 15. « Comme de l'eau, j'ai été versé, et tous mes os se sont pulvérisés. » Comme de l'eau, j'ai été versé, et tous mes os ont été pulvérisés. Mon cœur fond comme de la cire à l'intérieur de mes intestins. Je ne sais pas trop où ils mettent le cœur, mais enfin bon, c'est pas loin des intestins. Ils ont des notions d'anatomie approximative. Alors, comme de l'eau, je suis répandu, bon, et mes os sont dispersés. Bon, l'eau ici est plutôt, c'est rare comme emploi, de montrer au fond la caractère un peu, comment dire, hein, l'eau, ça coule, ça se répand. C'est un peu, c'est non comptable, enfin, il y a une espèce de flaque d'eau, si vous voulez. C'est pas quelque chose de très précis. Le cœur qui fond comme de la cire, là, on a encore une comparaison, c'est-à-dire qu'il est tout en lui se disloque, c'est ça que ça veut dire. Mon cœur est devenu comme de la cire. Le Targoum, c'est pareil. Mon cœur fond comme de la cire. Et factum est cor meum tamquam cerali quenchen sin medio. C'est la même chose en latin. Verset 16. Sèche comme un tesson est ma force. On traduit quelquefois aussi. Ouais, c'est curieux ça. Sèche comme un tesson est ma force. On a du mal à comprendre. Et ma langue est collée à mon gosier. Dans la poussière de la mort, tu me déposeras. Bon, c'est un peu la dernière étape, si vous voulez, hein, puisque quand même, on peut suivre avec une certaine narrativité. C'est quelqu'un qui commence par demander où est Dieu, qui semble l'avoir abandonné. Il dit un tas de choses sur Dieu. Ensuite, il dit que les pères ont été sauvés, que lui-même, dès sa naissance, a été projeté hors du sein maternel et confié à Dieu ou adopté par Dieu, et qui peut se confier en lui, et que ce Dieu le libérera à condition qu'il lui fasse confiance. Bon. Et cependant, ce Dieu-là a l'air loin, hein, et n'a pas l'air d'être intervenir. Et après ça, il y a une très très grosse description, versets 13 et 14, sur les taureaux de Bashan, sur qui ouvrent leur gueule, etc. Bon, et puis lui, ben, le résultat, c'est qu'il est comme de l'eau, c'est-à-dire il tombe en poussière, mais il est pulvérisé. Hein, j'aime bien l'expression pulvérisé, parce qu'on peut pulvériser de l'eau. Je suis répandu, et mes os... Alors, les os, c'est ce qu'il y a de plus costaud en nous, hein, c'est ce qui résiste au... Même quand on est mort, c'est ça qui disparaît le dernier, quoi. On est obligé de mettre ça dans une caisse, dans les tombeaux, quand on fait ce qu'on appelle les réductions de corps. Il reste toujours les ossements, le crâne, les os. Alors, on met ça... Bon. Et puis, la dernière étape avant la mort, une fois que son cœur et ses membres se disloquent, eh bien, c'est la bouche qui devient sèche et la langue qui colle au gosier, et qui est le signe avant-coureur de la mort. Donc c'est quelqu'un qui est proche de la mort. Alors, il revient sur les ennemis. On aurait pu dire, bon c'est bon, les lions quand même, ils ont fait leur boulot. Les taureaux, ça devrait suffire. Ben non, verset 17, il revient encore sur les bestioles. car des chiens m'entouraient, une communauté de méchants m'encerclait, comme le lion mes mains et mes pieds. » Ah là, on est devant une difficulté énorme, au verset 17. Alors, prenons la première partie du verset 17. « Car des chiens m'entourent. » Bon, vous avez déjà dit plusieurs fois que les clébards sémitiques sont peu avenants. Hein. Je veux dire, ils sont peu urbains et ils ne pensent qu'à mordre et à déchirer. Quel est le tronc commun entre le taureau, le lion et le chien? Ben, c'est que le taureau, ça n'est qu'une, à la limite, ça n'est qu'une gueule, une tête. Ça peut vous avaler. Bon. Le lion, lui, il a quand même des griffes. Il peut vous attraper et vous dévorer. Mais il y a la dévoration dans les deux cas. Et ici, c'est intéressant parce que du chien, on va retenir justement le côté un peu capable d'attraper avec sa gueule et de donner un coup de patte. Le coup de patte qui risque d'être fatal. Alors, m'entourer. Et alors, verset 17c, eh bien là, on a une crux exegeticum, c'est-à-dire, ou exegeticus, c'est-à-dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, regardez les différences. Comme le lion, mes mains et mes pieds. La Septante, ils ont troué mes mains et mes pieds. Et le Targoum, il m'injurie comme le lion, mes mains et mes pieds. Pas très signifiant. Alors, où est le problème? Il y a 18 solutions. Voilà, ce petit verset n'a l'air de rien, mais il engage quand même pas mal le sens du psaume. Hein. Si je le prends dans le grec, on a une torture supplémentaire, mais entre nous, si vous regardez quand même le début du verset, je pense que c'est quand même le mot « chien » qui est présent. « Car des chiens m'entouraient », une communauté de méchants m'encerclait. Alors, comme des lions, mes mains et mes pieds, bon. Alors, certains veulent mettre mes mains et mes pieds après le verset suivant, mais et on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Bon, vous aurez vu au moins ce qu'était une crux interpretum, c'est-à-dire quelque chose pour lequel il n'y a pas de solution. Alors, à l'Église, on vous fait dire la Septante, surtout pendant la Passion, non, n'ayez pas de mauvaises pensées en disant « on nous a raconté autre chose en cours ». Voilà. On finit, puis on fait une petite pause. La fin est plus facile. Hein. Alors, je dirais « tous mes os, eux, ils regardent et me voient ». Bon, ils l'ont dénombré tous mes os, ça va un peu mieux. 19, ils ont partagé mes habits, tirent au sort mes vêtements. On va revoir ça tout à l'heure. Pas beaucoup de différence entre l'hébreu et le grec. Ensuite, et toi, Yahvé, ne t'éloigne pas. Mon secours, prête attention. Bon. Ah, alors par contre, verset 22, ça, il pose problème. « Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle, tu me répondras. » Qu'est-ce qu'il y a en grec ?« Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes, des unicornes, bon, du buffle éventuellement. » Le buffle, ça a plusieurs... C'est la licorne qui n'en a qu'une, ou le rhinocéros. Alors... « Mon humiliation », là encore, le « tu me répondras » dans la Septante devient « mon humiliation » dans la Septante correspond à « tu m'as répondu » ou « tu me répondras ». de l'hébreu et dans la Vulgate, humilitatem meam, qui correspond à mon humiliation. Alors là, il y a encore une croix. Et on va aller assez vite. Les voyelles n'existaient pas, on comprend qu'ils aient lu différemment. C'est pour ça qu'un jour, on va mettre des voyelles sérieusement. Alors, toute la finale, à partir du verset 23 jusqu'à la fin, qui est presque aussi longue que le début, hein, puisqu'on a de 23 à 30, les différences ne sont pas énormes au point de vue des textes, mais là, on passe toujours... À la louange, je dirai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez de louez-le, etc. Tu n'as pas méprisé, bon, de toi ma prière dans l'assemblée. Les pauvres mangeront et seront rassasiés, ils loueront le Seigneur. Ils se souviendront et ils retourneront vers Yahvé tous les confins de la terre. Elles se prosterneront devant toi, toutes les familles des peuples. Et puis, car Yahvé... À Yahvé et la royauté, ils ont mangé, ils se sont prosternés. Une semence survivra. Ils viendront, ils diront sa justice au peuple naissant, car il a fait. Point. Vous voyez, c'est bon, la finale n'est pas de grande différence. Alors, on fait une petite pause avant de reprendre. Et on s'attardera surtout au Nouveau Testament, plus que le texte lui-même est relativement simple. L'histoire du texte du psautier. À gauche, vous avez ce qu'on appelle le type massorétique, c'est-à-dire que le type massorétique, c'est, en gros, vous avez un auteur qui a écrit quelque chose, mais ça s'est diffracté en plusieurs transmissions. C'est-à-dire que le texte original, on n'a aucun texte original de la Bible. On n'a pas le manuscrit de Jérémie, on n'a pas le manuscrit d'Isaïe, on n'a rien. On n'a que des copies. Bon. Seulement, ces copies, à partir du moment où c'est recopié par des scribes, va connaître des variantes. Alors, je vous ai mis à gauche texte massorétique, c'est-à-dire celui qui va donner naissance au texte massorétique. On va commencer à mettre des consonnes au 1er et 2e siècle. Puis ça va se diffracter en Orient et en Occident, et puis ça va donner le fameux manuscrit Ben Nephtali et Ben Asher, et c'est surtout le Ben Asher qui lui servira de texte receptus, voyez, entre 1524 et 1525. Donc le seul manuscrit biblique que nous avons de toute la Bible hébraïque est un manuscrit qui remonte au 8e, 10e siècle, qui s'appelle Manuscrit Ben Asher, ou Manuscrit de Leningrad, ou de Saint-Pétersbourg maintenant, comme vous voulez. Ça y est, c'est clair. Donc on n'avait pas, avant les découvertes de Qumran, de texte plus ancien de la Bible en hébreu qui remontait au 8e, 9e siècle, enfin 10e siècle. Puis, au milieu, vous avez des textes non massorétiques, c'est-à-dire qui ont des écarts par rapport aux textes massorétiques, et qui sont des traductions la plupart du temps. Bon, alors, Qumran. Alors, Qumran, c'est facile, c'est un siècle ou deux avant le Christ et un siècle après, et qui a fourni 37 psautiers en hébreu, fragmentaires, dont on n'a pas et qui ne sont pas forcément vocalisés. Et deuxièmement, qui ne sont pas entiers, et entre autres, manque le psaume 22 sur lequel on s'est acharné. Bien. Les Targoums, vous voyez, ça se fait à plusieurs périodes. Ça commence au 5e siècle avant Jésus-Christ, Et ça se terminera premier siècle, deuxième siècle après le Christ. Ce sont des longues trajectoires, tout ça. Alors, ce qui va être nouveau pour vous, c'est ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure. Aquila, vers 130 de notre ère, Théodotion, vers le deuxième siècle, et Symmaque, vers le troisième siècle, qui sont des traductions, pas antichrétiennes, mais disons, qui empêcheraient les chrétiens de vouloir s'approprier le texte. Et c'est notre ami Origène, qui vers 250 par là, va les rassembler avec le texte hébreu, ensuite Aquila, Symmaque, Théodotion et la Septante. La Peshitta, c'est tout simplement la Bible traduite en araméen, ce qu'on appelle la Bible syriaque, et qui est assez proche des Targum par certains côtés, puisque c'est la même langue. Alors vous voyez d'où vient la Vulgate, hein, regardez en plein milieu du texte, il vient d'un filon du texte massorétique, puisque Jérôme veut revenir à la Veritas Hebraica, donc il va se mettre à traduire la Bible de l'hébreu en latin au IVe siècle, alors que juste avant lui, il existait, c'est ce que vous avez sur la droite du texte, le type septuagintal, c'est-à-dire la Septante en grec, et qui avait donné des versions un peu dans toutes les langues, en latin, en copte, en gothique, en éthiopien, en arménien, en géorgien, etc. Et Jérôme va s'inspirer un peu aussi de la Septante, mais il est surtout dépendant de la tradition hébraïque, hein, puisqu'il veut revenir à l'hébreu. Voilà un petit peu, si vous voulez, l'histoire du psautier. Hein. C'est assez intéressant de voir que... Alors, probablement que l'ancêtre de Qumran, le manuscrit qui est recopié à Qumran ou qui sont recopiés indéfiniment à Qumran, certains d'entre eux seraient plus anciens que le texte massorétique, mais dans la plupart des cas, le texte de Qumran est plus jeune, hein, le substrat qui sert aux copies de Qumran, est plus jeune qu'en fait notre fameux texte du 9e siècle. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que le texte du 9e siècle repose sur un manuscrit qui est antérieur au manuscrit sur lequel repose Qumran. Et la Septante, quelquefois, repose sur des manuscrits antérieurs à ceux du texte massorétique. Vous voyez un petit peu la gymnastique ? C'est important que vous pensiez ça, enfin que vous pensiez, que vous ayez des idées là-dessus, pour ne pas vous laisser égarer, je dirais, par des faux problèmes, entre autres de penser qu'il n'y a rien de fiable, etc. Non, je veux dire, on a ça pour toutes les... On a ça pour le latin, pour le grec, pour le sanskrit, ou les textes chinois, hein, c'est-à-dire entre eux. L'auteur ou les grands philosophes chinois écrivent leur philosophie et leur mise par écrit, il y a aussi un gap, hein, c'est-à-dire il y a du pointillé, on n'a pas la... Il n'y a aucun auteur dont on n'a pas le texte. À Qumran, il y a un truc marrant, il y a un seul texte biblique qu'on n'a pas, je ne sais plus lequel, j'arrive jamais à m'en souvenir, un texte qui n'est pas présent. Alors, peut-être qu'il n'était pas encore écrit. Pas impossible. Mais la secte de Qumran pouvait aussi avoir des... Elle n'avait pas forcément le même canon des Écritures que les pharisiens. Alors, si on revient au psaume 22, je dirais que tout ce qui concerne la structure, je ne me ferai pas couper la tête pour celle que je vous donne. Je veux dire, elle est relativement... J'ai intitulé ça ma proposition, mais enfin c'est un peu orgueilleux parce que c'est à peu près tout le monde qui fait ça. Et en gros, on est d'accord pour dire qu'il y a une première partie qui est une plainte, qui comprend une section 2 à 11 et que nous avons lue et qui est très marquée par l'alternance des pronoms. moi, toi, toi, eux, lui, là, moi, je vous dis là-dessus, on peut discuter. Bon. Une deuxième partie de plainte qui va de 12 à 22, et je choisis volontiers la leçon « Tu m'as répondu à moi » de la corne des buffes, et enfin une troisième partie, ou une deuxième section, qui est carrément hymnique, qui, elle, semblerait avoir une structure concentrique. Elle est tellement petite qu'on arrive à y déterminer cette structure-là, mais enfin, là encore, soyez circonspects. Alors, ce qui est intéressant dans ce psaume-là, c'est évidemment toute la manière de parler de la mort. Donc, c'est une lamentation avec un certain nombre d'éléments de la lamentation, c'est-à-dire de la plainte. En général, la plainte, et ici on a une plainte très très bien formalisée, hein, c'est-à-dire elle est à trois. Sont vraiment parties liées. Alors, le vœu de louange est suivi ici d'une louange très développée, puisqu'elle va de 24 à 31. Donc, c'est relativement important. Alors, il y a des choses très curieuses dans ce psaume qui sont des choses qu'on ne trouverait pas normalement dans des plaintes individuelles. C'est pour ça que le psaume 22 est un peu un pont entre les psaumes individuels et les psaumes collectifs. En général, les psaumes collectifs... L'espace, je vous avais demandé un petit peu qu'est-ce que vous en pensiez, mais on est continuellement dans un espace mobile, hein, c'est-à-dire Dieu est proche, Dieu est absent ou Dieu est loin, c'est la même chose, hein, et il demande que Dieu s'approche. En revanche, les ennemis, eux, sont presque le touche presque, hein, c'est-à-dire que ils rôdent, ils cernent, ils ouvrent la bouche. Je veux dire, on utilise les sens qui sont de plus en plus proches. C'est que le sens qui est le plus lointain, c'est la vue. Nous voyons de plus loin que nous entendons. Ensuite, l'audition suppose quand même qu'on ne soit pas trop loin l'un de l'autre. Donc, quand il est question de parole ou d'audition, on est dans une certaine distance rapprochée. Alors que la vue, ça va très très loin. Si vous prenez ensuite l'odorat, l'odorat, ça commence à sentir quand on n'est pas trop trop loin, sauf si vous avez vraiment des boules qui permettent d'asphyxier une salle entière. Mais généralement, l'odeur est quelque chose de propre. Le goût, alors là, il faut vraiment toucher. Là. Le goût, il faut renifler quelque chose. Bon. Et enfin, le dernier sens qui est le plus proche, c'est le toucher. Dans le psaume, quand vous regardez, je vous avais demandé de regarder un petit peu tout ce qu'était le rapport espace-temps. Alors le temps, on voit bien qu'il est modulé avec les pères, c'est-à-dire la suite ancestrale, ma mère, etc. Bon. Et puis une certaine espérance, c'est-à-dire qu'on est projeté vers l'avenir. Et en même temps, il y a une très grande importance qui est accordée à ce que j'appellerais le registre du corps, et en particulier les cinq sens. Ils n'y sont pas tous, hein. Mais on voit bien qu'on passe de la vue au toucher et même à l'audition. On est un peu dans le sens où le goût et l'odorat ne sont pas. La manière dont il se décrit resterait. C'est du solide au liquide. Alors, un thème très important de ce psaume-là, c'est le thème du salut, c'est-à-dire comment Dieu sauve quelqu'un qui est innocent et comment ce salut prend corps dans une louange, c'est-à-dire que commencer à louer Dieu pour ce qu'il a fait dans le salut qu'il a accordé. La parenté, la souffrance et la mort sont tout à fait présents dans ce psaume-là. Et le registre animalier, il n'y a pas de plantes, hein, il n'y a pas de... un rapport entre Dieu et son élu. Ensuite, il y a un rapport entre son élu. En fait, on peut dire en gros